Torréfaction est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci.
Bienvenue dans Torréfaction 225 en live et en solo, puisque, comme vous le savez, si vous avez lu, et j'espère que vous avez lu les dernières news de notre ami Fasquille, il y a un bras qui se ressoude lentement, mais sûrement, et sans avoir besoin de mettre des vis dedans, ce qui est une excellente nouvelle, car ma jambe peut vous expliquer que c'est pas très agréable de mettre du matos dedans pour aller le rechercher après. Nous avons décidé de... d'écluser un petit peu le backlog de news qui s'accumule au fur et à mesure pour vous faire un torréfaction un peu à l'arrache, mais complet, je vais essayer, et on va faire ce format pendant encore 3 semaines, donc on va se retrouver tous les vendredis soirs, alors 22h, je pense que c'est un bon horaire, mais ça peut s'ajuster, pour parler jeux vidéo, applications, tech, un petit peu de culture. Évidemment, j'ai pas transformé le podcast en full K-pop, même si l'idée m'a traversé l'esprit, je ne vous le cache pas. Donc du coup, on va faire ça tranquillement, avec une conduite que je vais dérouler dans... un navigateur que pour une fois vous allez voir, ce qui n'est pas le cas d'habitude, comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps, comme je ne sais pas encore si on va exporter le podcast en audio pour pouvoir le mettre dans le flux RSS avec les autres podcasts normaux, ou si on l'exporte uniquement sur YouTube en attendant que Fasquille aille mieux. Je vais faire un entre deux, peut-être qu'on regardera des trucs ensemble, peut-être pas, je vais réagir avec le chat, mais j'essaierai de relire vos questions pour que les gens qui ne sont pas en direct avec nous puissent suivre quand même tranquillement tout ce qui se passe. La vidéo enregistre le chat, donc de toute façon de ce côté-là il n'y a plus de pas de problème. Et puis, derrière, on pourra exporter, si c'est écoutable, sans avoir le support vidéo, effectivement, et puis surtout si c'est pas non plus un truc à s'arracher les oreilles, on le mettra dans le flux normal, en mettant une petite pastille, disclaimer, ceci a été réalisé sans filet, avec les moyens du bord, voilà. Donc effectivement, Caneloun le dit dans le chat, ça sent le Notion, évidemment. Je vais ouvrir mon application Notion dans lequel nous avons depuis 225 épisodes à chaque fois la conduite du podcast. Il y a pas de fond sonore, j'ai pas mis de fond sonore avec le podcast. Là, je vais peut-être en mettre un, mais j'ai peur que chez certains il soit un petit peu trop fort. Du coup, je me suis dit que c'était pas non plus indispensable. Si jamais on veut mettre un bed, on a un fond sonore généralement. Enfin, ça sur les podcasts qui est très léger. Est-ce que j'en rajouterai un post-prod? Je ne sais pas, mais du coup, ça m'évite d'avoir trop de trucs à gérer pendant que je balance les éléments à l'écran, ce qui n'est pas plus mal. Merci beaucoup. ouais, baby, il n'y a pas de K-pop ce soir, mais il y a des trucs rigolos sur la partie culture et il y a un peu de Japon, donc on va faire ça propre. Ouais, j'ai d'ailleurs, il le dit, ça rappelle les tauliers, j'ai failli faire l'intro des tauliers pour déconner, mais je me rappelais plus exactement de ce que disait le jingle, donc je me suis abstenu de faire une vanne qui se plante. Du coup, on va commencer directement, alors 30 minutes d'habitude, hein, vous savez, c'est autour de 30 minutes quand on fait le podcast habituel, on déborde assez régulièrement. Là, il y a des chances que ça soit un peu plus long, puisque nous sommes en pleine Gamescom et qu'il y a pas mal de trucs à expliquer. Je vais passer assez vite sur certains sujets, et puis je vais pas du tout être complet sur la Gamescom, car ce n'est pas possible, et puis c'était pas ma tasse de thé, j'avais plus de trucs à vous présenter ailleurs. Donc je suis pas extrêmement motivé pour aller faire les 2 milliards de jeux indés qui ont été présentés. On va commencer d'ailleurs avec un truc pas du tout indé, mais auquel j'ai joué, donc on va en profiter, qui est notre ami Tower of Fantasy. Et ouais, je vais parler d'un gacha game. Alors attention, c'est celui-là qui est ici. Je vais changer l'écran qui est correctement celui-ci. Excusez-moi. Boum, boum, boum. Il y a Edge qui a décidé de faire des blagues. Donc je vais remettre le bon. Donc on est sur celui-ci qui est un nouveau titre de Tencent Studio et de OTA. OTA, c'est évidemment un studio chinois et c'est un jeu qui vient se positionner exactement dans la cour de Monsieur Genshin Impact et de le titre précédent du studio de Genshin, qui est Honkai Impact 3rd. Je vais le redire correctement. Honkai Impact 3rd, qui était pas un truc en monde ouvert, qui était beaucoup plus rigide, mais qui déjà permettait de tester la technique de Genshin, qui était la technique 3D et la technique des gachas, c'est-à-dire comment vous faire dépenser plein d'argent. Oui, c'est normal qu'on voit ma fenêtre, hein, c'était le but. ma fenêtre X-Hamster, putain, j'avais pas lu ta phrase en entier. Normalement, c'est bon, hein, j'ai mis tous les trucs chelous à l'abri. Tous les liens de ce baby, tout ça, sont planqués. Donc, je suis normalement hyper safe. Et puis, en podcast, vous ne verrez rien, donc tout va bien, je suis complètement tranquille. Ce titre, en fait, il a plusieurs surprises. C'est-à-dire qu'il est comme Genshin, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que le jeu soit plutôt potable. Techniquement, il est moins bien réalisé, c'est-à-dire qu'il fait illusion, mais c'est moins propre que Genshin. Il y a moins de polygones, il y a moins de textures, c'est un petit peu plus light, on va dire, sur la finition quand on joue avec tout à donf. Le résultat est intéressant en termes de gameplay, en tout cas sur les premières heures de jeu. En revanche, il manque le truc le plus intéressant de Genshin, à mon sens, qui est la gestion de plusieurs personnages à la fois, qui permet de faire des combos, etc. Là, on monte, il y a une capacité à changer des personnages, etc. Il y a tout un système de persona, mais c'est pas non plus extraordinaire. Là où c'est extraordinaire, c'est sur les chiffres qu'ils ont déjà réussi à faire, puisque qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh ben on est déjà devant 10 millions d'installations en 2 semaines en Occident. Le jeu est sorti en juin. Le jeu est sorti en décembre en Chine. J'ai pas le nombre d'installations en Chine, mais j'imagine que ça doit bien se passer. Et en fait, ils ont déjà profité là de leur timing de lancement pour annoncer la Mage 2.0 Vera, puisqu'en fait, ils essayent de rattraper un petit peu la Chine de ce point de vue-là. Eux, ils vont avoir la 2.2 dans pas longtemps. Et donc, ils vont rajouter un nouveau biome, des nouvelles quête, etc., etc. Le résultat est plutôt sympa. Dans l'article que je rajouterai sur Torréfaction, avec tous les sujets du podcast comme d'habitude, vous aurez des liens pour lire un petit peu plus de choses à propos de tout ça chez Jeux Online et chez GameSpot. On est sur vraiment un titre qui va pas vous convaincre d'y jouer si vous aviez déjà fui Genshin Impact, mais ceux qui sont pas réfractaires aux gens iront voir. Et de toute façon, c'est gratuit, hein, voilà. La drogue, hein, vous savez, la première dose, ça se passe bien. Il y a des streamers extrêmement connus actuellement en France avec beaucoup de viewers qui sont scotchés dessus depuis plusieurs centaines d'heures, donc j'imagine que c'est pas complètement ridicule. Moi, j'avoue, je l'ai déjà désinstallé, mais c'est plutôt parce que j'ai un bug en plus rigolo qui est un truc très très rigolo. Non, c'est pas sur celui-là, sur un autre free-to-play, je dis des bêtises. Sur Super People, qui est en fin de bêta actuellement, qui est un FPS Battle Royale qui est pas nul, il y a un bug rigolo, surtout sur Windows 11 a priori actuellement, qui est que quand il essaye de s'updater, en fait, il se passe des choses rigolotes et le Windows Defender décide de le désinstaller pour vous faire gagner du temps, et donc vous vous retrouvez avec un jeu qui ne fonctionne plus puisque l'exe part à la poubelle. Ça me fait beaucoup rigoler. Il y a sur le chat Scornieux, excellent pseudo, qui nous dit que ça a l'air plus multi que Genshin. Vraiment, je suis pas convaincu de ce que j'ai vu chez les streamers qui sont bien plus avancés que moi dans l'histoire. Tu restes quand même sur des jeux assez solo, donc à voir. De toute façon, vous testerez ça, vous verrez bien. Dans les news qui ne surprendront personne, puisque absolument tout le monde en a parlé cette semaine. Et oui, la PlayStation 5 qui nous prend 50€ de plus si vous arrivez à l'acheter. Donc c'est assez rigolo et ironique de se dire qu'une console qui est introuvable augmente. Voilà, donc elle était déjà 800 balles chez les scalpers, donc finalement le prix normal reste tout à fait raisonnable. On peut raisonner comme ça aussi. Mais on est sur une machine qui est impactée comme à peu près toute l'informatique mondiale, l'électronique en général, par le Covid, l'inflation, donc la guerre en Ukraine, machin, vous fait un petit melting pot. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se dire, OK, le prix augmente. C'est logique. Bon, forcément, c'est vous l'analysez comme vous voulez, mais c'est pas du tout arrangeant. En revanche, ça n'en fait pas la console console la plus chère de chez Sony, puisque la PlayStation 3 était sortie, si, avec inflation corrigée, on était à plus de 600 balles quand elle est sortie. Enfin, on était à environ 600 euros. Donc, il y a encore un petit peu de marge pour Sony. Mais là, évidemment, ils essayent surtout de faire en sorte de pouvoir les mettre sur le marché et qu'on arrive à combler le manque qu'il y a actuellement, bah, depuis la sortie de la console, qui a quand même 2 ans maintenant, les gars. Hein, donc, ça fait un moment. Et oui, bon, alors la Xbox peut baisser, effectivement, comme on fait remarquer sur le chat. Alors, les mecs ont décidé de surtout de pas augmenter. C'est déjà pas mal. Mais il y en a en stock. Et apparemment, on est quand même sur des chiffres de vente qui sont 2 fois inférieurs, je crois, un truc comme ça. Donc, forcément, c'est beaucoup moins tendu au niveau de l'approvisionnement. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, actuellement, la PS5 Digital Edition est à 450 €. Celle avec lecteur est à 550. C'est le nouveau prix. Et vous en trouverez toujours pas. Un autre truc dont on n'a pas le prix, en revanche, c'est le DualSense Edge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pad pro de Sony qui a été annoncé pour aller se mettre en face du Elite de chez Monsieur Microsoft. Sauf que celui-là a l'air quand même vachement mieux, je vais pas vous mentir. Bon, déjà, le DualSense est pas mal. Après, il y a toujours les gros débats sur la le positionnement du stick analogique gauche. Ça, on n'en sortira jamais. On est sur un produit qui va être entièrement échangeable et démontable. Alors, évidemment, dans le podcast, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais faire tourner la vidéo de présentation sans son, en revanche, pour que je puisse quand même discuter avec vous. Et vous allez voir que, en fait, on est sur un pad qui, évidemment, mon truc ne marche pas si je mets en plein écran, puisque je n'ai pas mis le bon Edge. Ah oui, parce que il y a des trucs rigolos quand on stream avec une fenêtre dédiée, donc forcément, c'est un petit peu pénible. Du coup, ce pad, en fait, on peut enlever et changer toutes les pièces du stick analogique. On peut régler la course des gâchettes, etc. Donc, les palettes qui sont derrière. Il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés et ça a l'air assez sexy. Et comme le font remarquer pas mal de sites de tech avec ironie, ça veut dire qu'au moins, on sera pas obligé de bricoler pour corriger le drift du stick en question, puisque il suffira de le changer et de donner un petit peu d'argent à Sony, du coup. La Elite de Microsoft, on dit sur le chat, elle est pas mal, non, point d'interrogation. Sur le concept, elle est très bien. Après, nous avons des amis très bien placés ici présents qui en sont à la 2e ou 3e à cause de problèmes de fabrication et du fait qu'elle part en morceaux. Du coup, c'est un peu décevant. Maintenant, est-ce que c'est un truc rare ou est-ce que ça arrive à plein de gens? Je ne peux pas vous le dire, j'ai pas les chiffres. Je vais corriger un petit truc en live direct, c'est-à-dire que quand je veux me mettre en full screen, j'aimerais bien avoir la bonne fenêtre. Voilà. Donc du coup, ça va marcher maintenant. Sony just announced the PlayStation. Voilà, donc ça fonctionne. Si j'en ai besoin, je l'ai. Merci beaucoup. Nous allons revenir à notre petite actualité. Donc le Edge, on n'a pas le prix, on n'a pas la date. Hein. Le Edge, pardon. Le DualSense Edge. Pour l'instant, on sait que ça existe, on sait ce qu'il va y avoir dedans, mais on n'a pas vraiment beaucoup plus d'infos que ça. C'est assez rigolo d'ailleurs qu'ils fassent des annonces sans filet de date. Ils ont fait pareil pour le PlayStation VR. Le nouveau kit, on a une fenêtre de tir, mais on n'a pas de... on n'a pas de date exacte, et puis surtout, on n'a pas de prix. Ce qui nous amène au gros morceau jeu vidéo, les amis, de la semaine. Le récap de la Gamescom Opening Night Live. Donc, comme tous les ans, il y a l'homme sandwich, Geoff Keighley, qui a fait une grosse présentation, que je rappelle est payante hein, pour tous les jeux présentés. Chaque truc mis en avant est en fait une pub, hein, tout bêtement. Je sais que ça peut paraître chelou, mais c'est la réalité. Et du coup, il y avait quand même pas mal d'annonces, et il y a évidemment plus de choses de présenter sur le salon lui-même. C'est pour ça que les sites de jeux en ce moment balancent beaucoup de choses, même si il y a quand même pas grand-chose de fondamentalement intéressant. Donc, sur l'opening qu'il y a eu cette semaine, on a eu des choses un petit peu intéressantes ou surprenantes. Il y a eu l'annonce de Dune Awakening. Alors personnellement, celui-là, je l'avais pas vu arriver. C'est un MMO fait par Funcom. Funcom, c'est les gens qui nous ont fait Conan, le MMO Conan, Age of Conan, pardon. Et on peut s'attendre en fait à quelque chose de très très proche en termes de gameplay, en termes de récupération des technologies, évidemment modernisées, en tout cas on espère, parce que ça date pas d'hier, hein, Age of Conan. Mais le titre est toujours exploité, donc il a quand même évolué. En fonction du budget qu'ils vont avoir pour ce nouveau truc, ça peut devenir un peu intéressant. On nous parle de une grosse partie survie par rapport en fait à l'univers du MMO, donc il va falloir apprendre à construire des abris. On nous parle de tempêtes des sables auxquelles il va falloir survivre. Il va falloir s'occuper de son distill. Il va falloir s'occuper de faire gaffe à marcher correctement, c'est-à-dire mal, bizarrement, pour pas se faire repérer par les vers. Donc bon, il y a pas mal de choses de prévu, en tout cas d'annoncer, mais on n'a rien vu puisque le trailer, je peux vous le mettre, hein, même si je sais que dans le podcast vous allez me détester, mais je vais vous mettre en accéléré parce que en fait ça parle et puis on a une super cinématique et il se passe rien, c'est-à-dire qu'on voit rien du jeu. C'est full 3D précalculé et puis rentrez chez vous, on se reparle quand il y a des choses à montrer, quoi. Ce qui est un petit peu frustrant, mais c'est le principe des teaser trailers. C'est de vous dire, la licence arrive. Ça va être génial. Préparez vos sous. Donc, écoutez, j'aime bien l'univers. Hein. Moi, je suis client, mais il reste à voir ce que va être vraiment le jeu. Je vous la fais en accéléré parce qu'on a vu mille fois les trucs. Et puis, je vous dis, je pense à ceux qui vont nous écouter sans voir ce qui se passe. Donc, il va y avoir une démo en bêta. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, de commencer à surveiller ça. Mais pour l'instant, j'ai pas vu passer de date précise, donc à suivre de loin. Un truc qui m'intéresse un petit peu plus, un truc qui m'a bien accroché, pas celui-là, pas Callisto Protocol, pas The Lord of Fallen, même s'il y a des choses à voir. Hein. Je vous ai linké tout ça, il y a un énorme récap chez Factor News qui est linké dans la news qui va accompagner ce podcast une fois qu'il sera offline. Et évidemment, là, vous n'avez pas, puisque je suis en train de faire le truc en live. C'est Homeworld, en fait, qui revient alors qu'il a été annoncé en 2019. Et Homeworld, il arrive enfin avec un vrai trailer, dans le sens où c'est une démo in-game qui a été scénarisée. Si vous êtes un vieux fan, mais dans tous les sens du terme, puisque la première version, ça va pas nous rajeunir, les amis, hein. Moi, j'y jouais chez Joystick il y a 20 ans, donc voilà. Mais j'avais battu Yvan à l'époque, et ça fait plaisir. On se retrouve avec un trailer qui est vraiment sympa. Et je crois que c'est pas le bon. Ouais, c'est pas celui que je veux, c'est génial. Donc moi, je voulais le trailer de gameplay, qui est celui qui n'est pas sur leur page. Je suis extrêmement content, vous voyez, c'est un travail de professionnel. Donc je vais trouver je vais même pas vous le trouver parce que ça va un peu pourrir le podcast, mais je vous conseille d'aller jeter un œil, puisqu'on va retrouver vraiment le design épuré de l'époque. On voit pas trop l'interface, donc on sait pas exactement quelle tête elle va avoir en 2022, mais c'est assez prometteur. Le jeu sort premier semestre 2023, donc pas 2022, pardon. Et ça voilà, c'est enfin ça arrive. J'ai un lien pour... Ah ben si, je l'ai, le truc en plus. Donc il y a une interview qui est sortie chez nos amis de chez. C'est une bonne question, ça, tiens. Je ne sais plus. Hop là. Pourquoi elle s'ouvre pas dans la bonne fenêtre? C'est une bonne question. Les petits aléas du direct, comme on dit. Bref, chez Kotaku, on a le gameplay trailer qui est pas le même, et qui lui est un petit peu plus sexy. Et qui garde en fait ce rendering 3D un peu épuré. Même si on voit l'interface, je dis n'importe quoi. C'est juste qu'on la voit pas tout le temps. Donc si vous aviez kiffé le design des premiers, bah c'est la même chose en beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus de détails. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Donc apparemment, justement, on va pouvoir jouer avec le décor beaucoup plus qu'avant. Et ça va être assez sexy. Les maps, en fait, ont l'air bien plus complexes qu'avant. avec la gestion de débris, de vieilles bases, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel sur celui-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est premier semestre. Et la surprise qui est en train d'occuper pas mal de gens, en tout cas ceux qui ont récupéré déjà les préversions, c'est Domekeeper, qui sort le 27 septembre sur Steam. C'est une sorte de tower defense avec gestion qui sort chez Raw Fury. Domekeeper, il est dispo sur... on peut le wishlister sur Steam déjà. C'est un truc full pixel... Voilà, si vous détestez les jeux un peu pixel, ambiance pixel, vous allez être déçu évidemment, mais qui a l'air assez rigolo. Je voulais vous mettre la preview, mais j'ai un petit bug avec mon Notion que je vais relancer de ce pas, qui a décidé de plus m'ouvrir les liens dans le navigateur que j'ai choisi, ce qui fait toujours plaisir. Tac, tac et tac. Ah, c'est parce que évidemment, il y a une update. Ah là 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 là, il me l'a pas proposé tout à l'heure parce que c'était pas drôle, parce que j'étais pas en direct en train d'enregistrer. Normalement je vais pouvoir vous mettre du coup la vidéo ce coup-ci. Bon bah Domekeeper, hein. on va faire sans la bande-annonce. Vous pouvez me faire confiance. Et puis Domekeeper, vous allez la trouver comme des grands car vous avez internet vous aussi, hein. Voilà, reprenons avec la grosse news, The Factor News. Et en fait, du côté du chat, vous... Bel effet Bonaldi classique, ça. Je ne sais pas si vous avez vu des trucs qui vous éclatent. Alors, j'ai vu, hein, évidemment, comme tout le monde, les grosses annonces. Il y a Gotham Knight qui a enfin une date de sortie qui sort sur PC, toutes les nouvelles consoles, le 21 octobre, avec un trailer très sympa. Oui, il n'y a pas Batman, et en fait, on s'en fout. Le truc est vraiment sympa. Ça fait, je crois qu'il n'y a pas eu de jeu autour de Batman Arkham depuis plus de 7 ans, donc il y a des gens qui sont extrêmement contents de le voir débarquer. Je pense que ça peut être vraiment rigolo. Il y a 2-3 mécaniques de jeu et bad guy qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il y a déjà des choses intéressantes autour d'un autre titre qui m'a évidemment interpellé, qui est Lies of P, qui est un truc autour de la licence de Pinocchio. Voilà, je sais, ça surprend, hein. J'ai attendu pendant tout le trailer qu'il se passe des trucs avec le nez de Pinocchio. Il y a rien avec le nez de Pinocchio, les amis, hein. C'est scandaleux. Le trailer est extrêmement intéressant dans le sens où on est quand même sur un truc hyper joli. Il y a une ambiance un peu Soul-like qui peut être intéressant au niveau du gameplay quand ils se bastonnent. Enfin, Soul-like, je me comprends. Mais regardez l'interface. Bon, on se retrouve avec des menus un peu connus, des fights avec des gros boss. Je sais pas. Il y a des choses qui me semblent assez inspirées quand même. Mais voilà. C'est comme ça, c'est pas le nez. Oui, non, mais on sait, c'était pour la vanne. Je réponds au chat en même temps. Donc, vous avez quand même des choses intéressantes à voir dans le trailer qui comprend pas mal de scènes de gameplay. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, je vous dis, c'est un peu mon problème dans toutes les annonces qu'il y a eu sur la Gamescom, c'est qu'il n'y a pas vraiment un titre où je me suis dit « Waouh, j'ai ultra envie d'y jouer à celui-là maintenant ». Je suis hyper content de voir arriver Return of the Monkey Island. Comme je fais partie des gens qui sont pas hyper fans de la nouvelle DA, bon, mais j'attends de voir. Apparemment, ça a l'air très bien écrit et tout, donc évidemment, j'irai voir. J'ai passé trop de temps sur les deux premiers pour pas le faire. Moonbreaker, c'est lequel? Unknown World. Ah oui, c'est les gens de Subnautica. Alors j'avoue qu'évidemment, je suis parti avec un biais un peu moyen, vu que je fais partie des rares qui n'ont pas kiffé Subnautica du tout. Mais a priori, bon, ça peut se voir. The Final, il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Je suis inscrit à la bêta comme plein de gens. C'est un des titres de la boîte des anciens d'Electronic Arts, pas d'Electronic Arts, mais c'est ceux qui faisaient Apex, donc c'est encore un autre studio, si je dis pas de bêtises, c'est Embark Studio maintenant que ça s'appelle. Mais on voit rien dans le trailer, donc on sait pas du tout ce que c'est. petit peu pénible. Bon, il y a 24 secondes d'un truc où on nous dit, voilà, vous allez pouvoir tout détruire, ça va être génial. On sait que c'est Nexon qui produit. Mais bon, en termes de gameplay, je vous confirme qu'on voit pas grand-chose. Hein. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas si vous avez des jeux dans le chat là qui vous ont vraiment motivé, mais moi en tout cas sur la qualité globale de la journée d'intro, bon c'était du Geoff, hein. Il y avait beaucoup de pubs, beaucoup de placements produits, il y avait des prix, on sait jamais, c'est génial parce qu'ils remettent des prix, mais à aucun moment ils t'expliquent qui a voté quoi, c'est magnifique, hein. C'est voilà, quelqu'un a fait un chèque quelque part, ça c'est certain, mais comment ils essayent même plus de le justifier. Ils ont présenté une Austin Mini Pikachu, hein, pour vous donner une idée du placement produit, c'est plus de l'homme sandwich là, hein. c'est faut inventer un nouveau mot. Donc on verra bien ce que ça donne. Et oui, sur le chat, ça nous parle de Silksong, évidemment, hein, pas de news. Bah, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça sortira quand ça sortira. Pour l'instant, pas beaucoup de news supplémentaires. Que je vais attendre de voir, on en reparlera la semaine prochaine de la Gamescom, parce qu'en fait, il sera temps de faire le tri dans tout ce qu'ont vu mes charmants collègues en train de s'user les pieds sur place. Il y a déjà des previews et des retours de démos où les mecs se disent, tiens, ça, ce truc-là, c'est vraiment bien, ça, c'est vraiment bien. Donc, bon, on verra bien. J'aurais bien aimé vous proposer la bande-annonce de Domekeeper, mais je pense que vous allez la trouver comme des grands. Et en plus, quand on fait les recherches, voilà, Domekeeper sur Steam, c'est celui-ci. Comme ça, vous allez pouvoir la tête que ça. Vous allez voir un petit peu sur la vidéo. On est vraiment sur du pixel art à l'ancienne. Donc c'est un mélange de tower defense et de le jeu des années 50, fin 70, enfin 80, où on tuait les missiles qui arrivaient sur votre ville. On parlait pas de tower defense à l'époque, hein, évidemment. Et mes deux neurones, un vendredi soir, sont incapables de retrouver le titre de ce truc mythique. Missile Defense, merci. Missile Commander même. Ouais, non, Missile Commander. Je crois que c'est Deadlock qui a raison. Donc c'est du Missile Commander. Il y a des phases un peu à la Missile Commander et il y a des phases de gestion, il y a des phases d'upgrade et la vidéo de présentation est assez rigolote et on voit bien qu'on est sur du gros pixel qui tâche. Donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. J'ai envie de vous dire. Moi, je pense que ça peut être assez sympa. Et un petit peu stressant. En tout cas, les gens qui sont dessus parlent de drogue. Donc, apparemment, quand on perd, on recommence direct. C'est toujours un bon signe sur ce genre de jeu, quoi. Je sais pas du tout si on l'avait vu avant, Scornion, je t'avouerai. Ça mélange plein de trucs qu'on a déjà vu, en fait. Mais je trouve que ça peut être assez sympa. Sur le concept. Hein. Je vais baisser le son. Évidemment, donc on prépare sa base. On est en train de bricoler et de faire les expansions. On est dans la partie gestion. Et à intervalles réguliers, la base et le dôme en question est attaqué. Et il faut pouvoir le sauver, le protéger, le réparer, etc. etc. Je pense pas... Je sais pas s'il était en Early Access. Du coup, je l'ai pas du tout suivi, celui-là. Et les reviews qui sont en train de sortir sont assez... surprenant dans le sens où les mecs disent je l'avais pas vu arriver ce truc là et c'est hyper rigolo, etc, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vais le récupérer, voir ça le plus tôt possible. On verra bien. Et puis c'est tout pour la partie jeux vidéo, c'est déjà pas mal. On fera vraiment le point la semaine prochaine, on verra ce qui se passe. Du côté des apps, il y a plein de choses pour une fois, parce que il s'est passé pas mal de choses sur ces dernières semaines, et comme on n'avait pas du tout fait de podcast, je récupère un peu de temps. Dans les annonces intéressantes, on a notre ami Cemu qui passe en open source. Alors Cemu, qu'est-ce que c'est? C'est un émulateur de Wii U. La Wii U, elle est morte depuis un moment, hein, donc vous allez me dire oui, mais on s'en fout, tout ça. Oui, mais non, parce que déjà, il faisait tourner en fait Breath of the Wild dans sa version Wii, et on pouvait jouer en 4K sur PC, ce qui était assez rigolo finalement. C'est grâce à ça que Cemu a un petit peu eu son heure de gloire. Le créateur parle de plus d'un million de téléchargements par mois à l'époque, ce qui est juste hallucinant. Donc du coup, ce titre, Cet émulateur a eu une vie un petit peu compliquée ces derniers temps, puisqu'il y a un des mecs qui bossaient dessus s'est barré. Et puis bah, celui qui restait a fait beaucoup, beaucoup de choses tout seul. Et puis là, il en peut plus. Donc il a dit, écoutez les gars, on a bien vécu, c'était cool. Mais maintenant, je vais le mettre en open source. Je vais vous aider à faire connaissance avec le code. J'ai fait un premier portage Linux tout seul, mais j'en ai ras-le-bol et Linux en plus, c'est pas mon truc. Donc du coup, maintenant, vous allez pouvoir vous démerder. Donc il explique tout ça dans un gros post Reddit. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de techniques à s'avancer dans cet émulateur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec. Il y a beaucoup de jeux qui tournent très bien. Il y a des jeux qui sont pétés dans cette version 2.0. Donc il y a évidemment beaucoup, beaucoup de taf encore pour le remettre entre guillemets à niveau avec les anciennes versions, mais où il y avait beaucoup de hacks pour que certains trucs tournent, etc. Là, il a fait pas mal de changements sous le capot. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution de ce truc-là. Moi, je m'en suis beaucoup servi à un moment, donc je suis assez intéressé de voir comment ça va évoluer. Dans les autres news rigolotes de la semaine, nous avons notre copain LastPass. Donc à chaque fois, je vous dis, installez la One Password, prenez des vrais produits, etc. Bon, LastPass s'est fait hacker, mais c'est pas les comptes des utilisateurs qui étaient visés, c'était le code source, en fait, cette fois, ce qui, à terme, peut être plus grave. Je vous ai linké, enfin, dans la news qui accompagnera le podcast et la vidéo, vous aurez un peu de lecture qui vous expliquera ce qui s'est passé exactement. Pour l'instant, on n'a encore pas toutes les infos. D'ailleurs, sur le truc que je vous ai linké, il y a marqué « This is a developing story ». Donc, bon, ils cherchent encore, ils attendent encore des infos. Ça fait donc, je crois, la troisième fois qu'ils sont hackés d'une manière différente ou sur des trucs différents. La quatrième fois, d'ailleurs. Quatrième fois, je crois. C'est très possible. Donc, LastPass, on vous a déjà dit plein de fois, c'est gratuit, très bien, machin. Si vous voulez un truc gratuit qui fonctionne, vous nous faites pas chier, excusez-moi, mais utilisez Bitwarden si vous voulez pas dépenser d'argent. C'est pas très joli, mais ça fait le taf. Et pour l'instant, ils ont jamais été hackés, je crois. Et puis, si vous avez un peu de sous et que vous aimez vos mots de passe et votre sécurité, vous prenez 1Password. C'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, point barre. C'est celui qui permet les meilleures intégrations avec vos applications, avec vos sites web, avec tout, en fait. Alors que Bitwarden, ça fonctionne, mais c'est un peu à la barbue, quoi. C'est un peu aride. Donc, il y a un moment où il faut faire attention, quoi. Donc, moi, personnellement, ça fait des années que je suis sur 1Password. Je les ai tous testés. Non, je ne parle pas de Dashlane, parce que Dashlane, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas l'interface. Il s'intègre avec moins de choses. Et en plus, je crois qu'il est toujours plus cher que 1Password. Donc, je vais pas lui faire de publicité. Hein. En tout cas, LastPass, il faut arrêter. Et quasiment tous les gens avec qui je travaille ou tous ceux qui ont touché LastPass se sont barrés depuis. Donc, soit ils ont pris des solutions Bitwarden, soit ils sont sur 1Password. Et quand ils sont sur 1Password, pour l'instant, ils sont très contents. Une autre news que vous avez peut-être vu passer, mais ça approche, donc il faut se préparer psychologiquement. Le prochain gros patch de Windows 11, la version 22H2, ça sort, si je dis pas de bêtises, le 20 septembre. Pourquoi je dis faut se préparer? Parce que si vous faites du stream comme moi, il faudra faire attention à bien remettre tous vos drivers, pas vos drivers, mais bien régler vos devices audio, parce qu'à chaque fois, ça saute. Merci Microsoft. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est insupportable. On est sur un patch assez intéressant sur cette version 22H2. On va enfin avoir l'app folder dans le start menu. Révolution. Donc on revient, on récupère des trucs qu'on avait dans Windows 10. Hein. C'est pour vous dire à quel point d'où on partait avec Windows 11. On va enfin avoir le drag and drop dans la taskbar. Moi, j'ai jamais vraiment utilisé, mais c'est pareil. Hein, c'est un truc qui était dans Windows depuis la nuit des temps, qu'ils ont viré dans Windows 11, qu'ils remettent. On va récupérer la possibilité de re-régler le start menu en termes de taille, etc. Pareil, c'est un truc qui était dans Windows 10. Bonjour, merci beaucoup. Et on a enfin des trucs incroyables, révolutionnaires, comme des tabs dans le File Explorer, les gars. 2022, c'est un truc de ouf, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je vous laisse aller voir tout ça sur Windows Central. Il y a des petits gifs, etc., qui vous expliquent les nouveautés, car c'est disponible sur le... Enfin, en tout cas, cette version est déjà en test depuis un moment sur le Channel Insider de Microsoft. Alors, évidemment, puisqu'ils font tout tester avant. Pour l'instant, rien de révolutionnaire, mais des trucs qui améliorent la vie. Et c'est déjà pas mal. Pour ceux qui sont encore en train de parler de l'espace dans le chat, ouais, je confirme que on peut évidemment avoir autre chose, un genre qui passe, etc. Mais c'est pareil, qui passe, c'est le niveau zéro du password manager. Je l'ai aussi au boulot, hein, parce que c'est un truc qu'on peut continuer à avoir son propre coffre-fort hébergé sur ses propres serveurs, etc. Mais il y a zéro intégration. Les automatisations et tout ça sont catastrophiques. Il faut avoir utilisé OnePassword pour un peu comprendre la qualité de vie que ça apporte d'avoir un truc qui vous déloque automatiquement vos applications. Une fois que vous avez déloqué OnePassword, évidemment, qui vous met vos codes uniques à la volée, qui clear automatiquement le cache, etc. Enfin, votre presse-papier. Enfin, c'est juste fou. On peut sécuriser tous ces sites sans se dire oh merde, enfin, je me log à chaque fois, c'est chiant, etc. Quoi. Donc c'est vraiment pas mal. En revanche, quand on utilise du KeePass, en plus, en fonction des plateformes, on est obligé de bricoler avec des trucs différents. C'est vraiment chiant. On continue au niveau des apps, car c'est la fête à Microsoft cette semaine, les amis. On continue avec des trucs rigolos, avec par exemple Microsoft, qui a décidé que pour se faire des amis dans les tiers gratuits de Outlook Mobile, donc les versions iOS et Android, on allait mettre encore plus de publicité dedans, et surtout on allait faire en sorte que ça ressemble à un mail normal, comme ça vous êtes sûr de vous faire avoir, c'est hyper agréable. C'est un classique, hein, malheureusement, chez les gens qui font ça, et du coup on est vraiment sur un truc qui est typiquement Microsoft des années 90, début 2000, quoi. On pensait qu'ils avaient arrêté de faire ça, mais a priori non. Donc du coup, ça, évidemment, ça fait grincer plein de dents. Si vous ne voulez pas de ces publicités, etc., et utiliser quand même leur truc, il faut être abonné Microsoft 365. Et évidemment, c'est le but de la manœuvre. Ou sinon, vous installez Spark, c'est vachement mieux, et ça marche très bien sur Android et iOS. Et c'est gratuit, et il n'y a pas de pub. Moi, je dis ça, je dis rien. Toujours chez Microsoft, chez Edge, voilà, on a dit beaucoup de bien avec Fastkill. Fastkill, en plus, même, je crois, il est repassé sur Edge en navigateur principal, même si moi, je suis toujours normalement sur Safari, sauf pour faire le podcast, où effectivement, ça, c'est Edge. Ils ont rajouté une magnifique barre, en fait, avec le dernier patch, qui est sur le côté droit, sur lequel ils nous rajoutent plein de choses complètement inutiles, hein, du style MSN Games, c'est des accès directs vers des services Microsoft, en fait. Ça n'a rien à foutre là, c'est une catastrophe. Je sais pas, arrêtez messieurs. Enfin, voilà, vous étiez partis sur une bonne voie. Ce n'est pas la peine de revenir en arrière et de nous faire des produits catastrophiques. Alors en plus, moi je l'ai eu par défaut quand j'ai rebooté ce PC. Mais sur mon Mac, où j'ai Edge avec le même numéro de version, ça ne me l'a pas mis en direct. Donc en fonction de paramètres que je ne connais pas, il va vous l'imposer ou pas. Alors c'est très facile à désactiver, hein, ça se passe ici, je l'ai encore oublié. Mais si vous regardez tous les trucs qui sont rajoutés depuis un petit moment dans Edge, on n'est quand même pas sur des choses hyper utiles. Il y a une volonté de refourguer de la pub, faire un peu de tracking, de pousser les services Microsoft. C'est de bonne guerre, mais ils n'ont pas besoin de ça en même temps. Donc, je trouve ça un petit peu stupide. Je réponds vite fait au chat. Est-ce que Spark, c'est mieux que Fastmail sur Android? En fait, l'appli, la web app Fastmail est très, très pratique. C'est d'ailleurs elle qui va être la plus intéressante pour tout ce qui est recherche de mail, puisque ça va rechercher directement sur le serveur, etc. C'est bien plus efficace. En usage classique, pour préparer ses réponses, gérer ses signatures, etc., Spark est vachement plus sympa. Moi, j'utilise les deux en fonction du besoin que j'ai. Et pour ceux qui me demandent si Edge est mieux que Firefox, moi, je trouve que Firefox est toujours mieux. On va dire que les deux sont potables. Si Microsoft continue à rajouter des conneries dedans, en revanche, ça va être vite vu. La personne qui écrit pour The Verge l'article que je vous ai linké trouve que ça devient n'importe quoi Edge, c'est-à-dire c'est pas celui que j'ai ouvert parce que ça fait partie des articles où j'ai un problème de lien, dit qu'effectivement ça devient une blague, mais il continue à utiliser Edge parce que c'est rigolo de voir la prochaine connerie qu'ils vont mettre à l'intérieur, ce qui me fait beaucoup rigoler. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Derrière on va pouvoir passer sur des trucs complètement différents, on va pouvoir passer sur le petit moment culture. Je regarde si dans le chat vous avez d'autres choses à me dire avant. Tac, c'est pas mort, il y a 10 ans que Claude Sauvre, non. c'est encore autre chose. On est toujours présent là-dessus. Dans la partie culture, on va parler musique, parce qu'en fait, on a la nouvelle vidéo de Valorant pour les championnats du monde 2022 qui est sortie. Cette vidéo, elle est pas mal du tout. Je vais pas vous mettre le morceau en entier. Je vais juste vous faire un petit extrait sur le drop parce qu'il est vraiment sympa si je le retrouve. Et après, on va parler en fait de l'artiste que ça m'a fait découvrir du coup, puisque je ne connaissais pas du tout. Hop là. Ah, c'est pas K-pop du tout. Alors, pourquoi c'est intéressant de vous parler de ça ? Premièrement, déjà, parce que c'est encore réalisé par des petits Frenchies, mais pas les mêmes que d'habitude. C'est pas le studio Fortiche qui est dessus pour cette fois. C'est un autre studio, mais c'est des anciens des Gobelins aussi, qui ont fait un taf hyper intéressant pour un budget tout à fait raisonnable. J'imagine raisonnable. C'est juste qu'il y a moins d'effets, on est moins dans un truc ultra léché sur tous les plans comme KDE, mais il y a des trucs qui sont vraiment impressionnants. Ils ont vachement bossé la scénarisation avec Riot, j'imagine, parce que oui, il y a un lore dans Valorant, et en fait, il est vachement bien exploité dans cette vidéo. Puisque le lore de Valorant, c'est qu'il y a des mondes alternatifs en fonction des choix. Là, ils ont utilisé différents artefacts de mise en scène pour montrer ce qui va se passer en fonction de ces choix, où est-ce qu'on se planque, etc. C'est plutôt bien vu. Et en plus, ils ont fait un truc qu'on avait déjà vu dans League of Legends, c'est qu'en fait, ils ont carrément mis dans la vidéo, dans le dessin animé, des joueurs pros, en fait, qui vont s'affronter pendant cette compétition. Ce qui est toujours un ego boost assez intéressant, et je trouve ça cool, en fait. J'aime bien ce mélange des deux trucs, quoi. En fait, c'est pas une question de tarif, hein, comme je vois passer sur le chat. Je pense que c'est largement pas les moins chers, mais c'est surtout qu'en fait, ça doit être ceux qui sont les plus fiables pour rendre à l'heure et ce qu'on attendait d'eux. Puisque déjà, quand on voit comment ça a été géré au niveau de Arcane avec Fortiche, c'est vraiment un travail d'équipe avec les mecs de chez Riot. C'est assez impressionnant. Il faudrait que je fasse une news pour vous mettre les vidéos de... Ils ont fait tout un tout un documentaire sur la création de Arcane. C'est extrêmement intéressant. Donc, je pense qu'il faut que je vous mette ça sous le pif pour que vous alliez le voir. Pourquoi donc c'est intéressant en plus au niveau de la musique ? C'est parce que ça m'a fait découvrir en fait la chanteuse qui s'appelle Ashniko, qui est complètement tarée et qui est... Alors, c'est pas du tout de la K-pop, hein. Voilà, ça change. Et qui cartonne sur la scène indé depuis quelques années. Ça fait pas très très longtemps en fait qu'elle commence à se faire un nom. Et elle est complètement folle. C'est assez rigolo. En tout cas, au niveau du son, c'est intéressant parce que j'ai mis de côté des lives que je vous mettrai dans la news qui accompagne le podcast. Où on s'aperçoit qu'elle est vraiment, elle est vraiment super forte. Après, au niveau du message, si vous êtes un mâle fragile, n'y allez pas, hein, ça va pas vous plaire. Mais elle est vraiment rigolote. Alors, c'est pas le truc à écouter quand vous cherchez une place de parking, parce que vous allez taper sur des gens, mais... Elle a un peu de tout, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai bien accroché. J'ai été épluché YouTube et il y a pas mal de choses déjà de dispo avec des clips à plusieurs millions de vues. Hein, donc, j'étais clairement pas dans la boucle, mais c'est hyper intéressant. On enchaîne avec une autre news qui n'a rien à voir, mais Horizon Zero Dawn va être adapté en série télé. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est prévu. On n'a pas de date exacte, mais en tout cas, ils ont déjà annoncé et qu'ils étaient en train de faire les castings et que ils avaient déjà le showrunner et la personne qui allait s'occuper de l'écriture. Alors, en fonction de vos goûts, vous allez être content ou pas, puisque c'est le showrunner, c'est Steve Blackman, qui est en train de terminer Umbrella Academy, encore la saison 4 à sortir, et en fait, il va enchaîner avec ça. Si vous aimez Umbrella Academy, si vous avez kiffé l'adaptation, bah vous allez être content. Si vous êtes un peu plus dubitatif, voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on sait déjà que Aloy sera bien l'héroïne. Je me demande bien qui vont caster pour aller s'occuper de ça, parce que ça va être un peu chaud quand même. Et au niveau de l'écriture, c'est Michel Lovretta qui va bosser avec Blackman, et qui est une nana qui a bossé sur Lost Girl et aussi sur Killjoy. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais effectivement, c'est la grosse mode des adaptations de licences de jeux vidéo vers les services de streaming, qui sont en recherche d'IP facilement, entre guillemets, transférable sur grand écran, enfin sur petit écran en l'occurrence. Un des connus qui a été signé dernièrement, c'est BioShock, qui va être adapté par le réalisateur d'Hunger Games et le scénariste de Logan. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, écoutez, moi j'adore l'univers d'Horizon Zero Dawn, donc j'espère qu'ils vont faire ça bien. J'espère qu'ils auront le budget pour les images de synthèse qui vont bien, parce que on sait très bien que le jeu, il envoie sévèrement au niveau visuel, et qu'il va peut-être pas falloir dormir s'ils veulent faire un truc un peu qualitatif en série. Ça va coûter un petit peu d'argent, donc on verra bien ce que ça donne. Derrière, on a un autre truc dont je voulais vous parler un peu à l'arrache, parce que je suis en train de le binger, et c'est vraiment hyper, hyper bien réalisé. C'est Summertime Rendering, qui est une adaptation animée d'un manga qui a été fait entre 2017 et 2021. Et la série télé est en diffusion actuellement. Il reste 5-6 épisodes, je crois. Je crois qu'il y en a 26 de prévus. On en est au 20e, un truc comme ça. C'est une énième histoire sur une time loop avec un héros je vous spoil pas grand chose, hein, mais parce que vous allez le voir dès le premier épisode, mais quand il décède, en fait, il revient à certains points dans le temps. On va de surprise en surprise, parce que c'est bien moins classique qu'on peut s'y attendre au départ. Il y a des choses, on se dit, ça va être encore un isekai. Non, pas du tout. Ça va être encore un truc de SF. Pas vraiment. C'est pas de la SF. Donc, c'est vraiment bien foutu. Et surtout, la réalisation est magnifique. L'animé, je sais pas s'ils ont eu du budget ou si c'est juste que les mecs ont un talent de taré. Mais c'est vraiment hyper propre. Il y a des petites arnaques rigolotes de temps en temps. Je le vois régulièrement, et je le vois sur les manois aussi souvent. C'est-à-dire qu'on a un mélange vidéo retraité, photo retraité pour faire des backgrounds, etc. et gagner un petit peu de temps en arnaquant tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment bien fichu. Le générique de fin, en fait, c'est juste... ils ont filmé la mer et Ellie, une île au Kagoshima ou un truc au large et à côté d'Ishigaki. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, il y a un problème sur Summertime Rendering, c'est que pour l'instant, je ne sais pas si c'est diffusé ailleurs que chez mon pote Bob VHS. Je sais que c'est la Disney Platform Distribution qui a les droits, mais alors je sais pas chez qui ça passera chez nous. Donc ça serait très possible que ça arrive sur Disney+. C'est largement assez qualitatif pour passer chez Disney+. Donc écoutez, on verra bien. Pour l'instant, si vous craquez, il faut appeler vos potes habituels. Mais c'est une excellente série. En fait, là, sur cette saison-là, il y a eu énormément de très bons dessins animés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une cuvée comme ça. Il y a un truc qui s'appelle Icoris aussi, qui est très très bien, dans un style un peu différent. Si vous êtes un vieux de la vieille et que vous aviez kiffé dans les années 2000 un DA qui s'appelait Noir, on est un peu sur le même délire, avec beaucoup d'humour cette fois-ci. Donc il y a vraiment de quoi faire. On a un thread, les animés du moment, sur le forum de Geekzone. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous voulez plus d'infos, il y a pas mal de posts qui expliquent les coups de cœur du moment. Donc vous pouvez aller voir directement dessus. Mais en tout cas, moi, je suis en train de binger. Là, je crois que j'ai maté sur la semaine. J'ai quasiment tout rattrapé sur Summertime Rendering. Et c'est vraiment très intéressant. Faites gaffe. Sur le net, vous allez trouver des mecs qui massent. Enfin, le titre se retrouve chez certains avec Summertime attaché et Render au lieu de Rendering. Donc, Summertime Render. Wikipédia a l'air de trancher. Mais je vous conseille de faire attention. D'ailleurs, vous le verrez sur les titres de fichiers de temps en temps. Donc faites gaffe, quoi. Et puis derrière, on va attaquer la tech. Je vérifie sur le chat que j'ai rien raté. C'est tout feel good, Licorice Recoil. Alors, Licorice Recoil, c'est feel good. Et en fait, il y a un vrai scénar derrière qui est vraiment sympa. Donc, c'est pareil, ça fait partie des excellentes surprises, dans la mesure, en plus, où la réalisation est vraiment hyper haut de gamme, en fait, hein, par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, parce que j'en ai récupéré et abandonné quelques-uns où vraiment, on sentait qu'il y avait des gros problèmes de budget ou de timing. Je ne sais pas où était le souci. Côté tech, on va parler gros sous, puisque il y a Samsung qui a fêté la sortie de prison de son... président en annonçant la construction d'un centre de recherche de 15 milliards, voilà, qui vont être dépensés entre maintenant et 2028. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est pas une fab, c'est vraiment un centre de recherche qui va faire à peu près 110 000 mètres carrés, qui est entièrement dédié à la R&D pour bosser sur les futures générations de transistors, sur les futurs systèmes d'interconnexion, sur les nouvelles méthodes de fabrication, etc., etc. C'est assez énorme et les mecs sont en mode genre, ok, il faut qu'on arrête de perdre du terrain en face d'une certaine PME qui s'appelle TSMC, entre autres. Ils sont assez motivé, on va dire. Il y a un papier que je vous ai linké sur Anantech qui explique tout ça. Il y en a d'autres, évidemment, un peu partout. Mais c'est assez rigolo de voir ça. Une autre news un peu marrante, c'est notre ami John Carmack qui a décidé de se relancer des petits défis et qui vient de monter une nouvelle start-up, en fait. Je suis pas sur le bon écran depuis tout à l'heure, je suis désolé pour la vidéo. John Carmack qui, en fait, lance une nouvelle start-up avec un tout petit chèque de 20 millions de dollars. Comme il explique avec beaucoup d'humour, il aurait pu se faire ce chèque à lui-même et se dire « je lance cette start-up moi-même ». Mais il voulait s'obliger à bosser, donc en fait, il a été prendre l'argent des autres. Il est très malin, John, hein, on n'arrêtera pas de le dire. Et en fait, c'est une start-up dédiée à l'intelligence artificielle, mais la vraie intelligence artificielle, entre guillemets. Ce qu'on appelle l'AGI en anglais, c'est Artificial General Intelligence. C'est le taf qui consiste à faire des IA qui raisonnent comme notre cerveau à nous et pas du truc en machine learning qui apprennent à faire une tâche par analyse et qui savent faire qu'un seul truc et qui sont incapables de réflexion, en fait. C'est des technologies qui étaient... Enfin, c'est un axe de recherche qui a été abandonné très largement dans les années 70, début des années 80, quand les mecs ont compris que ça allait être un peu très difficile, surtout avec les moyens du moment. Et puis, qui se sont dit nous, on va arrêter de faire ça. Donc, tout le secteur a shifté jusqu'à très récemment. Il y a quasiment aucune boîte qui soit financée de manière un peu sérieuse, on va dire, qui bosse là-dessus. Les chercheurs qui se sont dédiés à ça pendant des décennies ont vachement été, décriés, parce qu'évidemment, ils ont un manque de résultats évident. Les mecs bossent, sont vraiment sur des choses extrêmement ésotériques. Ils n'ont pas de choses à montrer, ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas des démos incroyables. Tiens, regarde, je suis dans mon application photo, je tape plage, ça me sort tous les photos de plage sans que j'ai besoin de les trier, etc. Non, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est le secteur du machine learning et de l'IA classique, on va dire. Mais là, les mecs rebossent sur des choses où ils veulent quelque chose d'un peu plus intéressant à terme. Alors, ça se trouve, il n'y aura pas de résultat de toute la vie de John Carmack. Hein. Bon, lui, il s'en fout. Hein. Le mec, il est milliardaire, tout va bien. Enfin, il n'est pas milliardaire, mais ça ira très bien pour lui. Donc, et en plus, il dépense pas son argent. Je vous dis, il est très, très, très malin. Mais ça me faisait marrer de voir John se barrer de Oculus et quand il avait arrêté la VR. Enfin, il a dit, je vais continuer à faire un petit peu de consulting pour eux, tout ça. Mais sinon, je vais évidemment me consacrer à cette nouvelle start-up. Alors, en plus, ça me fait marrer parce qu'il l'a appelée Kin Technologies. Et les vieux comme moi savent que, évidemment, je pense qu'il y a une vanne hein, sur Commander Kin. La blague, c'est que quand il y a eu la première version de cet article, il n'y avait pas la parenthèse sur la référence à Commander Kin. Je pense que le mec a relu l'article ou le journaliste a tilté après. Donc, ça m'a fait un petit peu marrer, quoi. Peut-être un projet Milo fonctionnel, je vois, sur le chat. Voilà, oui, bon, la singularité, on n'est pas pressé, hein, mais ça peut être marrant. Mais voilà, bon, est-ce que ça sera dangereux ou pas, machin? Je rentrerai pas dans le débat et je pense que de toute façon, on n'aura plus d'eau et plus d'électricité d'ici là, hein, les gars. Voilà, vendredi soir de l'espoir. Donc le temps qu'ils y arrivent, on a un petit peu de marge. Et au pire, comme on aura flingué la planète, il faudra bien qu'on la lègue, voilà, à l'intelligence artificielle. Ils auront même pas besoin de nous faire la guerre, je pense. Ça va bien se passer. Des choses un peu plus proches de nous et un peu plus intéressantes là maintenant tout de suite, c'est les premiers tests des nouveaux SSD. Vous avez pas fini d'installer vos générations 4 dans vos nouveaux ordi, qu'il y a déjà les chiffres des générations 5 qui viennent de sortir, qui sont sur le marché, hein, donc les chiffres on les a depuis un moment sur les protos, mais c'est toujours intéressant de voir ce que ça sort. On parle de 12 gigasecondes en lecture, 10 gigasecondes en écriture. On est sur du PCIe donc génération 5 avec les nouveaux contrôleurs, des puces 3D NAND TLC et des connectiques toujours classiques, hein, M2 de 2280. C'est les choses qu'on aura dans les dernières cartes mères, évidemment puisqu'il faut des contrôleurs qui puissent gérer le PCIe 5, mais on est vraiment sur des choses qui commencent à envoyer sévèrement. Déjà là, j'avoue que tout ce que j'avais en Gen 4, c'était déjà assez bluffant à chaque fois que je fais des transferts de données. Mais là, on devient bien, là. Hein. On a commencé l'informatique sur des disquettes. On est assez content de voir ce genre de truc. Au niveau dégagement de chaleur, on pose des questions sur le chat. J'en sais rien. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça sera pas pire que ce qu'on a actuellement, très honnêtement. Hein. Donc, je suis assez tranquille sur l'histoire. On verra bien ce que ça donne, mais je suis pas non plus hyper inquiet. J'ai pas vu de modèle actuellement, que ça soit chez Aorus. Il y en a un autre qui est dispo. D'ailleurs, c'est expliqué sur la news. Ouais, c'est Corsair et Samsung qui ont sorti des choses. Il y a pas de choses avec des espèces de dissipateurs monstrueux comme on a pu voir au tout début de la Gen 4 où les mecs savaient pas trop comment ça allait se positionner. Donc le marché est en train d'évoluer de ce côté-là, comme d'habitude. Hein. Pas de nouveauté là-dessus. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, si vous vouliez upgrader votre machine, eh bien, vous savez qu'il y a encore de nouvelles choses à surveiller, à mettre de côté. Voilà, au niveau du podcast, aujourd'hui, j'ai fini le tour de tout ce que j'avais prévu. S'il y avait des choses, des questions dans le chat, si vous avez des sujets, des choses qui vous titille, que je n'ai pas abordé aujourd'hui, c'est le moment de poser vos questions. Pendant que je rappelle à tout le monde, encore de merci à vous d'être là. Merci de votre support. Merci à ceux qui nous écoutent en différé, qui nous regardent. C'est très gentil à vous. J'espère que la qualité du podcast était suffisante. Comme je me suis pas encore écouté, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, merci à tous ceux qui nous supportent sur Patreon, évidemment, qui nous aident mois après mois et nous motivent mois après mois à continuer. Avec vos petites donations. J'ai vu des primes d'ailleurs tomber tout à l'heure, j'ai rêvé ou pas ? Non, c'est Scully qui a retrouvé son prime et qui l'a lâché sur la chaîne. Merci beaucoup, monsieur Scully. 3 mois de suite en plus, ça c'est beau. Nico aussi l'a fait il y a 56 minutes, j'avais pas fait gaffe. Singbrick aussi, merci à lui, un habitué. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas été faire pitié sur Valorant. Et pas mal de nouveaux followers, donc merci à tout le monde. Donc c'est vraiment super gentil en tout cas d'être présent et de nous aider tout ça. La voix de Faskill était ok. La voix était ok. Ouais, Faskill, on lui fait plein de bisous. Bah là il se repose en plus, donc pour les dernières nouvelles, j'ai pas tout expliqué en détail, mais en gros sa fracture était extrêmement chiante et du coup elle est toujours pas stabilisée, donc il peut pas vraiment prendre de risques avec, il faut qu'il fasse super gaffe. Elle est en train de se ressouder, tout est dans l'axe, mais c'est encore, il faut encore qu'il soit au calme pendant 3 semaines pour être vraiment peinard, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup il peut pas monter les podcasts, il a le bras en fait pris au niveau du coude. Donc pour rester devant l'ordinateur et faire des clics, etc., c'est pas vraiment ce qu'on lui recommande actuellement. Donc il se repose, il est en train de remater encore plus de séries que d'habitude. Donc je pense qu'il va être complètement à jour quand il va revenir avec 500 milliards de trucs à vous recommander. Donc ça va bien se passer. Mais pour l'instant, donc on va faire ça. Je vais faire ça en solo. Je vais le réaliser comme ça parce que c'est moins de travail et c'est plus sympa d'interagir avec vous sur le truc. Donc comme maintenant il y a un setup qui tourne plutôt pas mal et que le son a l'air plutôt bien, ça devrait aller quoi. Je vois sur le chat, heureusement qu'il n'est pas dans le plâtre en pleine canicule. Ouais, il a kiffé. Hein. Bah, de toute façon, tu kiffes toujours, en plus, quand ça t'arrive quasiment en plein début, au début de tes vacances, tu rentres de soirée, t'es tranquille, etc. Enfin, ça n'arrive jamais bien, un accident. Hein. Vous savez comment ça se passe. Donc, c'était un petit peu pénible. Sur ce, je vais boucler le podcast, mais pas le stream. Je vais voir s'il y a encore des choses à aborder, mais comme ça, je peux finir la vidéo et je peux finir la partie audio si on voit que ça fait l'affaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tour de l'actu. On fera certainement le débrief, donc comme je disais au début, des nouveautés de la Gamescom. Et puis, ça va être la rentrée. Donc, normalement, les annonces vont commencer à reprendre un bon petit rythme. C'était assez mou cet été entre les différentes crises et les trucs qui se passent sur notre belle planète en ce moment. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus, on n'a pas raté grand chose, on va dire. En termes d'annonces, les gens ont bien compris que ce n'est pas trop le moment. Donc, je vous souhaite une bonne soirée si vous nous quittez maintenant, et puis je vais continuer un peu en live si vous avez des questions ou des choses dont vous voulez parler. À plus, ciao ciao.
Un podcast signé Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.